Bonjour à toutes et à tous. Au micro, Mouhamadou Oumfa pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition matinale du jeudi 14 novembre 2024. Voici le sommaire.
Monsieur le président élu et ancien président Donald, félicitations. Et je me réjouis d'avoir, comme nous l'avons dit, une transition fluide.
Tête à tête hier, mercredi, à la Maison Blanche, entre le président Joe Biden et son successeur Donald Trump. C'était la première étape vers un transfert du pouvoir entre les deux hommes, pendant que le président élu continue de dévoiler le casting de sa future administration.
La plupart des gens qu'il a nommés, excepté pour Marco Rubio, sont absolument inconnus du public en général. Et ce que ça me dit à moi, c'est que Trump va vraiment centraliser toutes les décisions dans ses mains.
Le décryptage de l'analyste politique Jean-François Seznec à suivre dans la partie magazine en deuxième partie de cette édition. En Mauritanie, le procès en appel de l'ancien président Mohamed Ould El Aziz s'est ouvert hier à Nouakchott. Il est accusé d'avoir abusé de son pouvoir pour amasser une immense fortune. Dans une dizaine de minutes, les nouvelles économiques avec Nani Talani et les sports présentés par Yacouba Ouidraogo. Mais pour commencer, voici le journal. L'actualité américaine pour commencer. Le président Joe Biden a reçu son successeur Donald Trump hier mercredi à la Maison Blanche. Après une poignée de main avec le chef de l'État sortant dans le bureau ovale, le 45e et bientôt 47e président américain a déclaré que la transition serait la plus fluide qui soit. Les deux hommes, assis auprès d'un feu de cheminée, ont fait de très courtes déclarations avant de se réunir pendant près de deux heures avec le chef de cabinet respectif. Je vous propose de revivre l'ambiance de cette rencontre dans cet extrait sélectionné par Firmin Koyaweda.
Monsieur le président élu et ancien président Donald, félicitations. Et je me réjouis d'avoir, comme nous l'avons dit, une transition fluide. Nous ferons tout ce qui est possible pour être sûr que vous ayez tout ce dont vous avez besoin et nous allons parler aujourd'hui. Bienvenue, bienvenue.
Thank you very much.
Merci beaucoup. La politique, c'est dur et souvent ce n'est pas un monde très agréable, mais c'est un monde agréable aujourd'hui et je suis reconnaissant d'une transition qui est si fluide et elle sera la plus fluide qui soit et j'apprécie beaucoup cela, Joe.
La réunion entre les deux hommes a été très cordiale et très courtoise, ainsi qu'incroyablement substantielle, a fait savoir la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, qui s'est adressée aux journalistes après la rencontre. Écoutez.
There was a... Les échanges ont été très fructueux et ont porté sur le fond. Comme je l'ai déjà dit, je tiens à préciser qu'il s'agissait d'une conversation privée et que je ne souhaite donc pas entrer dans les détails. Mais ils se sont entretenus pendant très longtemps, presque deux heures. Pardonnez-moi, je pense que la durée de la réunion indique qu'ils ont eu une conversation approfondie sur toute une série de questions.
Le président élu Donald Trump, qui s'installera à la Maison-Blanche le 20 janvier, continue d'annoncer ses nominations et dévoiler les visages de sa future administration. Hier mercredi, il a annoncé confier la direction nationale du renseignement à Tulsi Gabbard, ancienne militaire et transfuge du Parti démocrate, le ministère de la Justice à Matt Gaetz, député de Floride, et le département d'État au sénateur Marco Rubio. Le point avec Gabi Dorsil.
Le sénateur de Floride, républicain, né à Miami il y a 53 ans de parents cubains, est connu pour ses positions anti-Pékin, pro-Taïwan et Hong Kong, et sera un défenseur ardent de notre nation, un véritable ami pour nos alliés et un guerrier intrépide qui ne reculera jamais face à nos adversaires, a affirmé le président élu dans un communiqué. Sa nomination doit être confirmée par le Sénat. Donald Trump a annoncé en même temps qu'il voulait confier la direction nationale du renseignement à Tulsi Gabbard, ancien militaire de 43 ans, originaire de Hawaï et transfuge du Parti démocrate, dont les prises de position pro-russe et contre la guerre en Ukraine ont fait polémique. Forte personnalité, Mme Gabbard est connue pour ses propos qui ont pu choquer au sein des institutions à Washington, comme critiquer l'interventionnisme militaire à tout craint de son pays depuis des décennies. Le député républicain Matt Gaetz a été, lui, choisi par Donald Trump pour devenir ministre de la Justice. À seulement 42 ans, cet élu de Floride, régulièrement classé à l'extrême droite, deviendra le bras armé de la politique judiciaire de Donald Trump, qui se dit victime depuis des années d'une chasse aux sorcières. Jusqu'à encore récemment, Matt Gaetz était relativement peu connu du grand public. Sa notoriété a changé de dimension en octobre 2023, quand il est parvenu à faire chuter le président républicain de la Chambre des représentants d'alors, Kevin McCarthy. Matt Gaetz est celui qui avait déposé la motion de censure ayant permis de destituer le speaker.
Pendant ce temps, John Thune a été élu hier chef des Républicains au Sénat américain, remplaçant Mitch McConnell qui occupait ce poste depuis 17 ans. Le sénateur du Dakota du Sud a remporté l'élection face à Rick Scott. Nani Talani.
John Thune, sénateur issu d'une ligne républicaine plutôt traditionnelle, a battu Rick Scott, représentant de Floride et ancien gouverneur de cet État, dans un vote à bulletin secret. L'élection de ce sexagénaire marque la fin de l'ère Mitch McConnell, chef des Républicains depuis 2007, qui a revendiqué durant des années le surnom de fossoyeur, car habitué à enterrer les projets de ses adversaires démocrates. L'élu du Dakota du Sud s'est dit extrêmement honoré. Cette équipe est unie derrière le programme du président Trump et notre travail ne fait que commencer, a-t-il assuré dans un communiqué. Il a reçu les félicitations d'Elon Musk, qui soutenait pourtant son rival Rick Scott. John Thune a défendu les aides à l'Ukraine, mais n'a pas précisé s'il va continuer à plaider pour de nouveaux fonds à l'Ukraine sous le second mandat de Donald Trump.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité africaine à présent. En Mauritanie, le procès en appel de l'ancien président Mohamed Ould El Aziz s'est ouvert hier à Nouakchott. Il est accusé d'avoir abusé de son pouvoir pour amasser une immense fortune. Rosine Mounezero.
Le procès en appel s'est ouvert sous haute surveillance sécuritaire à Nouakchott. En détention depuis le début de son procès en janvier 2023, M. Aziz est apparu en bonne santé à l'audience. L'ancien chef de l'État a été condamné en décembre 2023 à 5 ans de prison ferme pour enrichissement illicite. Ses avocats avaient fait appel. Il comparaît aux côtés d'une dizaine de hauts responsables et des proches pour enrichissement illicite, abus de fonction, trafic d'influence ou blanchiment. Au moment de son inculpation en mars 2021, les enquêteurs ont chiffré à 67 millions d'euros le patrimoine et le capital que M. Aziz se serait constitué en plus de 10 années à la tête de l'État. Il a été écarté de la présidentielle cette année, qui a été remportée par son successeur Mohamed Ould Cher El Ghazouani, l'un de ses plus fidèles compagnons.
Au Tchad, un rassemblement de partis d'opposition a annoncé hier, mercredi, maintenir son refus de participer aux élections législatives et municipales fin décembre, malgré une tentative de médiation de la CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale. La CEAC nous a demandé de participer à ces élections. Nous leur avons répondu sèchement mais fermement que participer à ces élections dans de pareilles conditions, c'est enterrer définitivement la moindre transparence électorale, compromettre la démocratie, légaliser la fraude et la suspension des libertés publiques et politiques, a déclaré dans un communiqué Max Kemkoye, le porte-parole de ce groupe d'opposition. Selon le texte, la CEAC et ses opposants tchadiens se sont entretenus lors de deux instances round de discussion le 29 et 31 octobre, qui n'ont toutefois pas convaincu le groupe de prendre part à ce qu'il estime être des élections factices. En plus des élections communales, le scrutin du 29 décembre prochain marque les premières élections législatives du Tchad depuis 2011.
En RDC, la vaccination contre le virus du Mpox a commencé dans la capitale Kinshasa, épicentre d'une épidémie, mais les autorités sanitaires signalent que les doses manquent pour immuniser les populations à risque. Dili Diko.
À Kinshasa, la campagne a commencé la semaine dernière à la prison militaire de Ndolo, où des cas ont été signalés. Seuls 50 000 vaccins sont disponibles pour une ville de 17 millions d'habitants. Il faudrait 110 000 doses pour la capitale, selon Africa CDC. La RDC doit compter sur les dons de vaccins. Elle a reçu en septembre 265 000 doses de l'Union européenne et des États-Unis. De prochaines livraisons sont prévues à une date encore indéterminée. Depuis le début de l'année, le pays a recensé plus de 42 000 cas de Mpox et plus de 1000 décès. Le nombre de cas continue d'augmenter, même si la vitesse de propagation du virus a légèrement baissé au cours des dernières semaines, selon l'agence sanitaire de l'Union africaine, Africa CDC. Une campagne de vaccination encore limitée a été lancée début octobre dans l'est du pays à destination des publics cibles comme les personnels soignants et les professionnels du sexe. Environ 900 000 vaccins ont été alloués par les agences sanitaires internationales aux 9 pays africains les plus touchés par l'épidémie.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Nani Talani.
La RDC et le FMI sont parvenus à un accord en vue d'un financement de 2,9 milliards de dollars, dont une partie doit servir à l'adaptation du pays au réchauffement climatique. Le financement doit être validé par le conseil d'administration du FMI qui se réunit mi-janvier. En Tunisie, l'Office national de l'huile prévoit une hausse des 50% des exportations d'huile d'olive à près de 300 000 tonnes sur une production d'environ 340 000 tonnes à la faveur d'une récolte qui s'annonce bonne cette année. C'est une hausse de 55% sur un an avec 1,7 million de tonnes d'olives. L'huile d'olive est l'un des principaux produits agricoles exportés avec les dattes en Tunisie. Pour terminer, la bataille des pays en développement pour obtenir de l'argent en faveur du climat est humiliante, a déploré le dirigeant par intérim du Bangladesh, Muhammad Yunus, lauréat du prix Nobel de la paix à la COP29 à Bakou, où se déroule la conférence annuelle sur le climat de l'ONU. La plupart des pays en développement sont favorables à un engagement annuel des pays riches d'au moins 1300 milliards de dollars contre une centaine de milliards aujourd'hui et réclament davantage de subventions plutôt que des prêts.
Et maintenant, l'actualité sportive, c'est avec Yacouba Ouédraogo. Salut Yacouba.
Bonjour Mohamedou, bonjour à tous.
Suite ce jeudi des matchs de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025.
Oui, le Burkina Faso accueille le Sénégal au stade du 26 mars de Bamako. Le sélectionneur des Burkinabés, Brahma Traoré, dit compter sur son collectif pour bousculer les Sénégalais, tous deux déjà qualifiés pour la CAN.
Nous savons que c'est un match très attendu. Nous aussi, nous pensons que ça sera un match à la hauteur, en tout cas, de ce que les gens peuvent s'attendre. Le Sénégal, comme je l'ai dit depuis le tirage au sort, c'était le favori sur papier. Maintenant, c'est au Sénégal de démontrer que sur le terrain, ils sont toujours favoris. En tout cas, nous venons pour discuter cette place face au Sénégal. Et je pense que la réponse sera donnée à l'issue du match.
Le sélectionneur du Burkina Faso, Brahma Traoré, son homologue du Sénégal, Pape Thiaw, quant à lui, mise aussi sur la première place pour devenir leader du groupe L.
Ça va être un match vraiment difficile parce que les deux équipes, chacune veut la première place et nous, on est venus pour chercher cette première place. Les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. Les deux équipes, chacune veut les trois points. Voilà, nous, on va mettre tous les ingrédients de notre côté.
Le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, des propos recueillis par Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako, à suivre aussi ce jeudi. Le Bénin qui reçoit le Nigeria face au Niger, le Soudan a besoin d'une victoire pour assurer sa place au Maroc. Hier, déjà qualifié à l'issue de la quatrième journée, le Cameroun s'est contenté d'un match nul 0 but partout face à la Namibie éliminée. Le Togo est out après sa défaite 0-1 devant le Libéria. Le Tchad et la Sierra Leone se sont neutralisés 1 but partout. Ce résultat assure aux éléphants de Côte d'Ivoire, champions d'Afrique en titre, leur place pour la prochaine édition de la CAN au Maroc.
Le président de la Fédération sud-africaine de football arrêté pour fraude.
Élu pour la troisième fois à la présidence de la Fédération sud-africaine de football en 2013, Danny Jordan a été arrêté pour des allégations de fraude et de vol d'un montant de 1,3 million de rands, soit environ 68 000 euros, selon le communiqué de la police. Le président de la Fédération sud-africaine de football est accusé d'avoir engagé une société de sécurité privée privée pour sa propre protection et une entreprise de relations publiques sans l'autorisation du conseil d'administration de la fédération. Danny Jordan aurait engagé cette dernière après des accusations en 2017 d'agression sexuelle de la part d'une chanteuse sud-africaine par ailleurs ancienne députée. Il a nié ces accusations qui remontaient à 25 ans auparavant. Le directeur financier de la Fédération sud-africaine de football, Gronny Hulyo, et l'homme d'affaires Trevor Netling, directeur de la société de communication en cause, ont aussi été arrêtés, mais ont nié les accusations. Tous les trois ont été libérés sous caution par le tribunal.
Merci à Kouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mamadou Oumfa, toujours avec vous. Maintenant, la partie magazine. Élection législative du 29 décembre prochain au Tchad. La commission électorale a rejeté la liste présentée par le secrétaire général du parti présidentiel, un allié proche du pouvoir, en raison de diverses irrégularités. Selon le président de la commission électorale, la candidature de Mahamat Zenbada ne satisfait pas aux critères d'éligibilité. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint N'Djamena le sociologue Gondé Ladiba, professeur à l'université de N'Djamena.
Il ne faut pas oublier qu'au sein du MPS, il y a également des rivalités. Puisque Zenbada, en venant à la tête du mouvement, il a fait élire le président Déby sur la base d'une coalition qu'on appelle Tchad Uni. Et donc, après les élections présidentielles de mai dernier, il revient à la veille de législative pour dire qu'il ne reconnaît plus le Tchad Uni, que le MPS il y a seul là où il peut aller, et donc que chacun se débrouille pour se faire élire au niveau local. Et donc, cela a suscité beaucoup de réactions au sein du parti au pouvoir, et il y a eu des communiqués des individus qui menacent de quitter le pouvoir, le parti, pour aller à notre parti, pour être investir aussi sous le nom, sous la bannière de parti de l'opposition. Donc ça aussi, ça a créé un malaise, apparemment, au sein du MPS, et c'est aussi un argument qui va être mobilité pour écarter M. Zenbada de la liste du MPS, de sorte que pouvoir créer une certaine harmonie, une certaine unité au sein du parti, et donc permettre aux militants du parti de battre campagne d'une certaine cohésion, une certaine entente mutuelle. Je pense que c'est un peu ça l'argument que je pourrais avancer.
Est-ce que cette décision de la commission électorale marquait-elle un tournant dans la régulation des candidatures au Tchad?
C'est trop tôt pour le dire, je pense. C'est trop tôt pour le dire parce que déjà, je pense que c'est trop tôt gros, je pense, pour la commission d'accepter que Zenbada, qui a été condamné, soit déclaré candidat. Ça serait trop gros. Maintenant, il faut attendre pour les autres cas. Pour le problème du Tchad, ce n'est pas la candidature absolument, parce que vous avez dit la présidentielle, il y a eu des candidats qui ont été rejetés pour des raisons parfois de farfelues. Et là, il y a eu un effet du sérieux, mais le problème, c'est le résultat. Est-ce qu'on peut aussi avoir des résultats qui vont tenir compte donc de la régularité donc de vote et voir respecter la voix des électeurs? C'est là l'enjeu principal. C'est un début, mais il faut attendre ce que dit la Cour constitutionnelle et le Conseil constitutionnel, ce que dira aussi plus tard les autres étapes donc de ces élections.
Peut-on y voir une volonté de renforcer les conditions d'éligibilité, même pour les proches du pouvoir?
Oui, je pense. Parce que n'oubliez pas que nous sommes dans une situation, une conjoncture très fluide au Tchad, où c'est difficile de préjuger, je pense, à la hâte, ce que pourrait préserver l'avenir. Parce que nous sommes, le Tchad, c'est un pays fuyant. Et donc, tout peut arriver, tout peut changer à tout moment. Donc, pour moi, je pense que le grand enjeu, c'est par rapport aux résultats des élections qui seront décisives. Et on saura si la voix, le suffrage universel exprimé par les électeurs seront respectés. Et si on aura des résultats qui ne seront pas contestés. Si les résultats ne sont pas contestés, à ce moment-là, on peut dire qu'on a eu de très bonnes élections au Tchad. Pour moi, je pense que ça répond à un agenda interne au parti au pouvoir, où la position de Mme Zenbada ne semble pas plaire à tout le monde. Et ils savent un peu bousculer les habitudes des gens. Il affiche trop sa puissance dans le manœuvrage du parti, ce qui fait que même ses propres amis ne veulent pas le voir aller plus loin dans ses ambitions.
Gonde Ladiba, sociologue et professeur à l'université de N'Djamena.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Cameroun, les autorités essuient de vives critiques sur la gestion du double éboulement survenu il y a plus d'une semaine à la falaise de Tchang dans la région de l'Ouest. L'opposition dénonce les lenteurs dans la mobilisation de la logistique pour les recherches dans les décombres. Des appels ont été lancés pour demander la démission du ministre de l'administration territoriale et du gouverneur de la région de l'Ouest. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jules Ntap.
Le 5 novembre dernier, un flanc de colline s'est affaissé au niveau de la falaise de Tchang, barrant ainsi la route entre la région de l'Ouest et celle du littoral. Les autorités ont autorisé les travaux pour établir la circulation. C'est au cours des dits travaux qu'un second éboulement s'est produit. Jean-Robert Wafo, membre du Front pour le changement au Cameroun, un parti de l'opposition.
Il y a eu un premier éboulement aux alentours de 10 heures. Un état normal, on aurait dit bloquer les entrées et les sorties de cette falaise. Parce que par expérience, c'est-à-dire qu'on est bien formé, avec le relief qu'il y a un espoir du côté de cette falaise, parce qu'il devait forcément avoir un effet domino. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé des gens juste après le premier éboulement pour enlever, n'est-ce pas, la terre qui avait traversé la chaussée. C'est une expérience inacceptable et inadmissible.
Faute de logistique, les équipes des recherches ont attendu 8 jours avant de se frayer un chemin pour atteindre les bas-fonds où ont été propulsés des véhicules de transport, des engins et personnes présentes lors du second éboulement. Lieutenant Charles Calvin Atangna, commandant de la 502e compagnie d'incendie de Bafoussam dans la région de l'Ouest.
Nous avons demandé d'autres moyens. Nous venons d'avoir ces moyens avec l'appui des autorités. Il fallait un bulldozer qui va créer le passage pour les pelles excavatrices. Nous allons créer une voie de contournement pour y accéder là où les deux engins sont dans le sol. Également là-bas, nous pourrons trouver d'autres victimes.
Malgré l'accélération des recherches, l'espoir de trouver des survivants s'amenuise. Awafonka Augustine, gouverneur de la région de l'Ouest.
À notre avis, il n'y a plus possibilité de trouver des survivants. Le travail que les différentes équipes sont en train de faire est très technique. Ils ont d'abord commencé avec les engins et cela a failli provoquer un troisième éboulement.
Les autorités ont mobilisé les experts de l'université de Tchang pour proposer des solutions suite au double éboulement enregistré sur la falaise de Tchang. Professeur Armand Kagou Ndokmon, volcanologue et expert en risque naturel.
Il faut qu'une équipe descende sur le terrain et propose soit dégager le matériau déposé pour libérer la route ou bien exploser toute la colline pour dégager tout l'environnement et continuer à subir. Parce que ce qui est su par rapport à tout ce qui est passé, la route n'a aucun problème. Il n'y a aucune difficulté sur la chaussée.
Selon le dernier bilan provisoire officiel, 12 personnes ont déjà été extraites des décombres depuis le 5 novembre. Emmanuel Junta pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Les populations qui pratiquaient le commerce transfrontalier entre le Rwanda et la République démocratique du Congo s'indignent contre les mesures restrictives à la frontière entre les deux pays. Elles souhaitent que ces mesures soient levées pour que leurs échanges redeviennent fructueux. De Kigali, le reportage de Jean Damachène, Manishimwe.
Au point de passage dénommé Petite Barrière entre la ville congolaise de Goma et celle de Rubavu au Rwanda, les acteurs du commerce transfrontalier traversent de part et d'autre. Cependant, depuis 2 ans et 3 mois, le gouvernement de la RDC a décidé de fermer la frontière à 15h au lieu de 22h comme c'était auparavant. Ces restrictions ont eu un impact négatif sur les échanges entre les deux pays, comme l'expliquent les populations locales.
Lorsque l'heure de fermeture nous rattrape, on laisse là les marchandises et on rentre parce qu'il est impossible de poursuivre la vente. Et lorsqu'on y retourne le matin, on trouve que beaucoup de ces marchandises se sont détériorées et on ne vend que ceux qui restent et on rentre.
Parce qu'on utilisait le jeton, même celui qui transportait une faible quantité de marchandises pouvait gagner quelque chose. Mais maintenant, on peut ne pas avoir de l'argent pour se payer un laissez-passer ordinaire parce qu'il n'y a pas beaucoup d'activité. Les populations rwandaises et congolaises souhaitent la levée de toutes les restrictions
pour permettre un commerce normal comme c'était auparavant. Mon point de vue est que le gouvernement du Rwanda et du Congo puissent se rencontrer et parler de bonnes relations devant exister entre les deux pays et que la situation ici à la frontière revienne à la normale pour l'intérêt et l'amélioration du bien-être des habitants de part et d'autre de la frontière.
Notre souhait est que le Rwanda et le Congo trouvent un compromis pour rallonger l'heure de fermeture pour que les Congolais puissent venir s'approvisionner chez nous et nous chez eux.
Le commissaire en charge du marché commun de la communauté économique des États d'Afrique centrale, François Kanimba, considère que ces restrictions sont aggravées par la précarité quasi général des échanges entre les pays d'Afrique centrale.
Le commerce intra-régional au niveau de la communauté des États de l'Afrique centrale, par rapport aux autres communautés économiques régionales sur le continent, est le plus faible. Ça ne représente que 3% du commerce total des pays de l'Afrique centrale, alors qu'au niveau de l'Afrique de l'Est, par exemple, nous sommes à peu près à 20%. Au niveau de tout le continent africain, on est à 17%. Donc vous comprenez qu'effectivement, il y a un retard considérable au niveau de la promotion des échanges intra-régionaux.
Avant l'aggravation des tensions entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, on estimait à environ 50 000 passages réguliers à la frontière rwando-congolaise de Goma-Rubavu, un flux limité aujourd'hui à seulement 15 000 passages par jour. Jean-Thomas Sénémane-Chimier pour VOA Afrique, Kigali.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Ici aux États-Unis, le président élu Donald Trump dévoile progressivement la composition de sa future administration. Le milliardaire Elon Musk va diriger un nouveau ministère de l'efficacité gouvernementale. Un autre riche allié de M. Trump, Vivek Ramaswamy, devrait co-diriger ce nouveau département. Comment comprendre ces nominations? Yacouba Ouédraogo a joint dans le Maryland l'analyste politique Jean-François Seznec.
Je pense que c'est vraiment très difficile, ce sera très difficile à faire et il est certain que beaucoup de gens essayent de simplifier les gouvernements généraux et tout ce qu'ils font, c'est en fait ajouter à la bureaucratie. Dans le cas de Elon Musk, quand même, il faut avouer que c'est un homme d'affaires de génie, en fait. Il a réussi à monter deux compagnies, en particulier SpaceX et Tesla, qui ont réussi vraiment très bien. Malgré que tout le monde en fait pensait qu'il ne réussirait pas. Donc il a peut-être une chance de réussir un peu plus que d'autres, mais ça va être très difficile, surtout avec les bons temps dont il parle. Et ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il mette des milliers et des milliers de personnes à la porte.
On sent cette sorte de focalisation des conservateurs sur l'administration fédérale américaine.
La plupart des gens dans le pays sont d'accord là-dessus, même parmi les démocrates et les républicains, c'est qu'il y a beaucoup trop de réglementations qui ont été développées au fur et à mesure des années. Et on voit que le niveau du gouvernement, la quantité de bureaucrates dans le gouvernement ne fait qu'augmenter. Et bien que tout le monde dit qu'il faut diminuer le nombre d'employés du gouvernement fédéral, mais en fait, ça ne fait qu'augmenter. Donc, depuis des années, c'est pas neuf. Ça fait 50 ans que ça dure. Et je pense qu'effectivement, il va falloir diminuer ça. Et la plupart des gens sont d'accord pour pouvoir diminuer la réglementation en général.
Parlons des récentes nominations de Trump. Kristi Noem à la sécurité intérieure, Mike Waltz, conseiller à la sécurité nationale, Elise Stefanik, ambassadrice auprès de l'ONU, Marco Rubio à la diplomatie, entre autres. À quoi va ressembler, j'allais dire, la future administration ou la future politique de l'administration Trump quand on regarde ses récentes nominations?
Ben écoutez, je trouve ça très intéressant parce que la plupart des gens qu'il a nommés sont, except pour Marco Rubio, sont absolument inconnus du public en général et des gens qui sont spécialisés dans ces affaires-là. Donc ce que ça me dit à moi, c'est que Trump va vraiment centraliser toutes les décisions dans ses mains et va avoir des gens qui sont entièrement à sa botte, si vous voulez, pour prendre les décisions et diriger le gouvernement dans la façon dont il veut. Je pense qu'il a beaucoup souffert dans son premier mandat, dans les premières années. Les gens qui travaillaient pour lui n'étaient pas vraiment aussi sûrs de travailler pour Trump. Ils travaillaient un peu pour le pays en général, mais pas forcément pour Trump. Là, maintenant, il veut des gens qui lui soient extrêmement fidèles, je crois, c'est le principal.
Jean-François Cesnec, analyste politique. Et c'est la fin de cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mouhamadou Oumfa, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com. Sans oublier nos différentes plateformes digitales, Facebook, YouTube et X. Merci de rester à l'écoute des programmes de VOA Afrique. À très bientôt.